RFI 8h30 à Paris, 6h30 en temps universel. Le journal, Sébastien Duhamel, bonjour.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous. C'est la paix, tout d'abord, qui attendra dans l'est de la RDC. Les diplomaties rwandaises et congolaises devaient normalement présenter hier un avant-projet d'accord de paix sous l'égide des États-Unis. Mais les discussions, pour l'heure, vont se poursuivre. La journée internationale de la liberté de la presse en ce 3 mai. Les défenseurs de la presse qui s'inquiètent notamment du sort de notre collègue Olivier Monodi, détenu depuis près de 2 mois au Tchad. À 4 jours du conclave qui élira le prochain chef de l'église catholique, on continue de vous présenter sur RFI le collège des cardinaux. Ce matin, un projecteur sur le cardinal ghanéen Peter Turkson. La chasse traditionnelle pour notre dossier du jour. Il nous emmènera à la rencontre des Nzebi du Gabon pour constater ensemble l'évolution de leur tradition. Et puis, une internationale congolaise de football qui aimerait bien briller ce soir en finale de Coupe de France. Elle s'appelle Merveille Kanjinga. Elle vient du TP Mazembe et elle joue depuis 3 mois pour le PSG. Les diplomaties de RDC et du Rwanda s'étaient donné une semaine pour bâtir ensemble un avant-projet d'accord de paix. Et c'est donc hier que ce délai expirait à Washington. Pour l'heure, je vous le disais, sans résultat tangible, car les discussions sont amenées à se poursuivre pour affiner les points de divergence. Il faut dire que ces négociations, sous l'égide des États-Unis, entre autres, sont complexes, comme on vous l'avait dit sur RFI. Car sur la table, en réalité, Patient Ligaudy, il n'y a pas un seul accord à conclure ici, mais plusieurs accords.
3 accords sont attendus à ces stades dans les cadres de la médiation conduite par les États-Unis. Le premier est un accord de paix entre la RDC et le Rwanda, dont la signature est envisagée pour le mois de juin. En parallèle, 2 accords économiques bilatéraux doivent être finalisés avec Washington. Le premier concerne la RDC. Il prévoit des investissements de plusieurs milliards de dollars d'entreprises américaines dans les mines congolaises et les infrastructures associées. Le second porte sur le Rwanda. Il concerne le développement des capacités de traitement, de raffinage et de commercialisation des minerais. Il est moins important en volume que celui signé avec la RDC, mais reste essentiel dans l'architecture globale du partenariat selon une source diplomatique. Un volet de coopération entre Kinshasa et Kigali est également en discussion, centré sur la chaîne de valeur minière. Les minerais extraits en RDC devraient transiter légalement par le Rwanda pour y être traités, raffinés et exportés vers les États-Unis. On peut aussi imaginer que la RDC sera également partie prenante dans les raffinages et la valeur ajoutée au sein des sociétés implantées au Rwanda. Il n'y aura pas de perdant, ajoute une autre source diplomatique. Ces 3 accords politiques et économiques sont interdépendants et leurs contenus sont encore loin d'être finalisés.
Et pendant que ces discussions se poursuivent, Patient Ligaudy, les présidents rwandais et congolais sont justement attendus normalement aujourd'hui au Gabon, tout comme Massad Boulous, le conseiller spécial pour l'Afrique du président américain Donald Trump d'ailleurs. Mais ici à Libreville, ils assisteront avec d'autres chefs d'État à l'investiture de Brice Clotaire-Oligui-Nguema, lui qui fut à l'origine du coup d'État contre Ali Bongo en août 2023. Il a ensuite dirigé la transition avant de remporter haut la main la présidentielle du mois dernier. Plusieurs candidats avaient été écartés du scrutin, hein, rappelons-le. Mais aucun recours n'avait été déposé pour contester les résultats. Cérémonie prévue donc tout à l'heure dans le stade de l'Amitié. Une date particulière pour les professionnels de l'information, et c'est le cas tous les ans depuis 1993, car cette date du 3 mai marque la Journée mondiale pour la liberté de la presse, l'occasion pour nous sur RFI de faire un bilan après la publication du rapport annuel de l'ONG Reporters sans frontières qui enregistre un recul global à l'échelle mondiale. Direction ce matin le Tchad notamment, où un dossier interpelle les défenseurs de la presse, celui de notre collègue Olivier Monodi, détenu depuis près de 2 mois sans charge claire, une détention opaque et inquiétante pour Yao Noël, président de l'Union des journalistes de la presse libre africaine.
Tantôt on parle d'intelligence avec l'ennemi, tantôt on parle de nouvelles inexactes, qu'il soit présenté et qu'on sache exactement ce qui lui est reproché, et puis s'il a des charges qui relèvent du droit commun, qu'il soit présenté à des juridictions pour que tout simplement le droit soit dit et qu'il bénéficie de l'assistance d'un avocat. Les États autoritaires issus du pouvoir militaire. Pour ces régimes-là, les journalistes deviennent la cible, pour ne pas dire des ennemis à abattre. Le message principal en cette journée mondiale de la liberté de la presse, évidemment, c'est de laisser les journalistes, pas seulement au Tchad, mais partout, exercer leur métier en toute liberté, car la place d'un journaliste, ce n'est pas la prison. La place d'un journaliste, c'est dans sa salle de rédaction.
Yao Noël, président de l'UJPLA. À l'approche de la présidentielle d'octobre prochain au Cameroun, un déplacement de terrain cette semaine pour le chef du gouvernement. Il s'est rendu pendant 3 jours dans le Septentrion, une zone au poids électoral important qui regroupe les régions de l'extrême nord, du nord et l'Adamawa. Joseph Dion Nguté a fait ce déplacement au nom du président Biya pour porter un message d'apaisement. Et cela après une vague de mécontentement constatée ces derniers mois. Amélie Tullet.
Cette visite fut un succès, selon l'équipe du Premier ministre. Elle a permis de reconnecter le chaînon manquant entre le président camerounais et ceux qui étaient mécontents. Joseph Dion Nguté a saisi une occasion, l'inauguration du pont entre le Cameroun et le Tchad en début de semaine, pour rencontrer des élus locaux et constater l'avancée des travaux sur l'axe Mora-Dabanga-Kousséri. L'extrême nord est une des régions les plus peuplées du Cameroun, mais aussi la plus pauvre. Plusieurs évêques originaires du Septentrion ont marqué le début de cette année en relayant le mal-être des Camerounais. Et en février, à Kousséri, des élus locaux ont bruyamment protesté contre l'attitude jugée méprisante du secrétaire général de la présidence, Ferdinand Gongo, lors de sa visite express avec sa délégation. Mais pour Abdoulaye Arissou, figure de la société civile du Grand Nord, même s'il reconnaît que le parti majoritaire garde une base électorale dans le Septentrion, la visite du Premier ministre ne peut compenser, selon lui, l'immense déception des habitants. Un pont, une route, en 43 ans, s'ils n'ont que ça à présenter, dit le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est minime. Le notaire à la retraite fait partie des initiateurs d'un appel républicain pour le changement en 2025.
Amélie Tullet, les traditionnelles fumées noires et fumées blanches attendues désormais au Vatican après les funérailles il y a une semaine du pape François. Pour élire son successeur, le conclave débutera dans 4 jours, mercredi prochain. Et dans cette perspective, on vous présente justement sur RFI les principales figures du collège des cardinaux qui vont voter. L'un d'entre eux sera donc le prochain souverain pontife, mais lequel? Hier, nous vous présentions le Guinéen Robert Sarra. Ce matin, le cardinal ghanéen Peter Turkson, créé il y a plus de 20 ans. Son portrait à Accra, signé Victor Cariou.
Le cardinal Peter Turkson est un défenseur convaincu de la non-violence. En 2016, il disait par exemple préférer la juste paix à la guerre juste, une conviction que l'homme d'église de 76 ans a porté près d'une décennie à la tête du Conseil pontifical Justice et Paix. C'est d'ailleurs lui que le pape François choisit d'envoyer dans un Soudan du Sud en proie à la guerre civile pour assurer une médiation. Et la confiance que le souverain pontife accorde à Peter Turkson ne s'arrête pas là. Participation à l'élaboration de la doctrine environnementale de l'Église, défense des droits des migrants ou encore dialogue avec les géants économiques mondiaux à Davos. En dépit de sa proximité avec le pape François, l'homme d'Église ghanéen a pu adopter des positions bien plus conservatrices que celles du chef du Vatican, notamment en matière d'homosexualité. Un point de vue qui, selon ses proches, confère à l'ancien archevêque de Cape Coast, au Ghana, une position centrale et influente au sein de la curie romaine. Victor Cariou, Accra, RFI.
La chasse, à présent, la chasse traditionnelle, une activité indispensable chez certains peuples africains, notamment chez les Nzébi du Gabon, cette ethnie vivant dans le sud et le sud-est du pays. Et cette chasse, pour eux, c'est plus qu'un moyen de se procurer de la viande, c'est aussi une activité éducative, une activité d'apprentissage de la vie en communauté. Mais il faut dire que cette chasse se fait de plus en plus rare en raison de l'évolution des modes de vie que Penaï Traoré.
Chez les Nzébi, on pratiquait la chasse au début et à la fin de chaque récolte et de chaque saison. Aller à la chasse, c'était aussi un moment d'initiation pour les jeunes garçons. Antoine Dongo, Nzébi, il continue de pratiquer la chasse traditionnelle transmise par ses parents.
Cette activité représente une importance chez les Nzébi, dans le cas où nous avons des cérémonies ou bien, par exemple, des circoncisions chez nous. Quand il s'agit de circoncier, par exemple, les jeunes garçons, nous organisons une partie de chasse avec les gens du village. Au sortir de là, ce produit-là va servir à organiser, par exemple, la cérémonie de circoncision ou bien l'initiation.
Aujourd'hui, la chasse dans sa forme traditionnelle chez les Nzébi se fait rare, les jeunes s'orientant vers un mode de vie plus moderne, déplore Antoine Dongo.
Vraiment, l'activité ne se fait plus de manière régulière. D'ailleurs, ça devient difficile un peu avec l'évolution du temps. Beaucoup ont déserté nos villages pour la ville à la recherche de l'emploi. Et le matériel aussi, pour l'avoir pour l'instant, c'est difficile. Les jeunes n'ont plus cette possibilité d'apprendre à tisser et à fabriquer, par exemple, un filet de chasse. Donc, c'est là où ça devient un peu plus difficile.
Les Nzébi doivent aussi s'adapter aux différentes réglementations régissant la chasse au Gabon et à la préservation de certaines espèces animales menacées de disparition.
Penaï Traoré, une chasse qui se pratiquait traditionnellement avec des armes comme des filets tissés, des lances fabriquées à base de matériaux récupérés dans la nature, mais petit à petit, eh bien, les populations ont abandonné ces vieilles méthodes. Pour Rodrigue Lekulekissa, historien, enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo de Libreville, le recul de la chasse traditionnelle aujourd'hui, même dans l'arrière-pays, est lié justement à l'utilisation d'armes plus modernes introduites par la colonisation, ce qui a, selon lui, transformé la chasse en une activité commerciale.
Le problème est lié aux conditions de vie, à l'aspect pécunier. Dans des villages, il y a encore des sociétés qui vivent essentiellement un peu de produits de la forêt. Donc ceux-là, à ce niveau-là, on verra des gens qui vont simplement aller faire de la chasse, simplement pour nourrir la famille. À ce niveau-là, le problème ne se pose pas. Mais le problème vient du fait que beaucoup de chasseurs aujourd'hui font de la chasse leur principale activité. À partir du moment où ils arrivent à avoir de l'argent, ils délaissent les pièges. Parce que le calibre 12, quand vous le prenez, quand vous allez en forêt, vous allez sortir avec une quantité importante de gibier. Contrairement au piège, vous pouvez vous contenter de deux ou trois. Donc si vous êtes lancé dans l'activité commerciale, vous comprenez qu'il est plus facile pour vous de vous procurer un calibre 12 où vous allez plus facilement avoir des quantités importantes que les pièges. Même dans des villages les plus reculés, parfois quand vous arrivez, quand vous trouvez du gibier, quand vous vous arrêtez, vous voyez que c'est le fusil qu'on a utilisé. Et c'est un véritable danger pour la protection des espèces.
Et l'historien Rodrigue Lekulekissa, la chasse traditionnelle chez les Nzébi du Gabon. Ce sera le sujet aujourd'hui de votre émission Un jour au village avec Kpenaï Traoré, à retrouver à partir de 13h10 en temps universel. Elle a fait les belles heures de l'équipe féminine du TP Mazembe en RDC et l'internationale congolaise de foot Merveille Kanjinga espère bien briller désormais sous le maillot du PSG qu'elle a rejoint cet hiver. C'était l'un des gros transferts de la première division féminine en France cette année. Et pour Merveille Kanjinga, premier trophée à aller décrocher ce soir, finale de la Coupe de France, dans un derby tout parisien contre le Paris FC. Et avant cette rencontre, Sofiane Amazian a rencontré pour nous la pépite congolaise, la cyborg, comme on la surnomme.
Malgré sa timidité apparente avant de répondre aux questions de RFI, ne vous méprenez pas, Merveille Kanjinga n'est pas de nature à s'effacer.
Les objectifs, c'est de gagner les titres, de gagner des coupes, des trophées, de rester focus, c'est ça les objectifs. Là où je viens, il y a plein de joueuses qui rêvent de jouer un jour dans une club comme Paris Saint-Germain.
Star du TP Mazembe, l'attaquante de 22 ans, a égayé le championnat local par ses buts en pagaille et a fait partie de cette aventure incroyable qui a emmené le club de Lubumbashi sur le toit de l'Afrique en remportant la Ligue des Champions. Mais Paris, c'est une autre paire de manches et Merveille Kanjinga est encore en rodage, selon ses dires.
Ça se passe très bien avec les clubs Paris Saint-Germain. Le football européen et africain, c'est pas la même chose. Je suis venu en hiver, ça faisait très froid et là, avec l'adaptation, ça va y aller.
Peut mieux faire, dit-elle. Deux buts, trois passes décisives en sept matchs joués pour la cyborg, un surnom que la native de Mbujimayi tente d'expliquer.
On me disait la cyborg parce que je suis un peu dur, j'ai la vitesse et donc ça signifie beaucoup de choses la cyborg.
Des débuts de rêve et un premier trophée en ligne de mire, la Coupe de France face au rival, le Paris FC.
Sofiane Amazian, allez un mot rapide de cyclisme avec le Tour du Bénin qui se poursuit hier. C'était la cinquième et avant-dernière étape remportée par le maillot jaune Reinhard Jansen van Rensburg. Aujourd'hui ce sera donc la dernière étape de ce Tour du Bénin. 105 km entre Tofo et Cotonou. RFI, 6h43 en temps universel. Restez avec nous. La matinale continue avec Julien Coquel-Rohem.